Alors c'est très très ludique et ça donne vraiment envie de parcourir cette exposition. L'ambiance retrace tout à fait l'ambiance nocturne. Je pense qu'elle attirera énormément les enfants mais aussi les adultes puisque moi je me suis pris au jeu déjà en ayant essayé un certain nombre des activités proposées. Et c'est vrai qu'elle est instructive mais ludique en même temps, très facile d'accès, ce sera un vrai plaisir. Mais vraiment pour tout le monde, quand on est au niveau des conférences, c'est vrai qu'on s'attaque plus à un public adulte. Et c'est vrai que les sujets qui sont proposés, il y a énormément de questions autour de la nuit, autour du sommeil. Et dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où le sommeil finalement de l'adulte et de l'homme est de plus en plus perturbé, avec les présences d'écrans ou autres, on est certainement à être questionné, nous en tant qu'humains, par rapport au monde animal quand on visite cette exposition. Donc les conférences auront aussi un intérêt majeur, à mon avis, pour qu'on puisse se positionner par rapport à cet univers nocturne.
Nuit à découvrir à l'Espace des Sciences jusqu'au 2 septembre.
L'idée, c'était de parler de la vie nocturne dans la nature, mais aussi dans nos villes. La première partie de l'exposition, elle est consacrée au sommeil, parce que notre premier rapport à la nuit, a priori, normalement pour nous, animaux diurnes, c'est de dormir. Et on s'aperçoit que tous les animaux dorment. Comme nous, de façon différente, mais chacun a son sommeil. Donc ça, c'est la première entrée en matière de l'exposition. Et puis, pendant que nous dormons, et les animaux diurnes dorment, eh bien, il y en a d'autres qui s'activent, ce sont les animaux nocturnes. Et donc, dans la deuxième partie de l'exposition, on va découvrir les chouettes, les chauves-souris, les renards, les grenouilles, les papillons de nuit, tous ces animaux nocturnes qui eux ont une vie très active la nuit, alors à plein de moments différents de la nuit. Et puis dans cette deuxième partie, derrière cette diversité, en fait, on va découvrir qu'ils ont aussi des sens incroyables, insoupçonnés pour nous. Parfois une très bonne vision, parfois une ouïe extrêmement développée, comme chez les chouettes par exemple, ou un odorat très, très développé également chez les amphibiens ou chez les chats sauvages, qui sont un moyen pour eux de pouvoir se nourrir, trouver à manger, mais également pouvoir draguer, faire du bruit la nuit. C'est un moyen de trouver un compagnon ou une compagne. Donc voilà, donc c'est une vie importante qu'on ne connaît pas forcément. Les pollutions lumineuses, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est que la nuit en fait disparaît. Le premier signe de cette disparition que nous on peut voir, c'est le ciel étoilé, et ça c'est bien dommage. Quand on est en ville, on ne voit pratiquement plus les étoiles, et pourtant c'est une chose absolument fantastique dès qu'on recule un petit peu des villes, c'est de voir la lune et les étoiles. Ce qu'on ne sait moins en fait, c'est que cette lumière en fait qu'on rajoute sur nos routes, dans les villes, va nuire à tous ces animaux nocturnes. Et en fait, il y a beaucoup d'espèces qui vont carrément disparaître de ces zones très éclairées, alors qu'il y a une grande diversité nocturne. C'est un monde incroyable, et surtout il y a une chose fantastique dans les pollutions lumineuses, c'est que c'est réversible et assez facilement. La pollution chimique, c'est très compliqué quand il y a eu une pollution chimique dans un sol par exemple, de retirer cette pollution, alors que la pollution nocturne, il suffit de d'éteindre nos éclairages ou de les diminuer. Alors bien sûr, il ne suffit pas de se mettre, on ne va pas se mettre dans le noir, mais par exemple à 2h du matin quand il n'y a plus personne dans les petits villages ou dans les routes, ben on peut diminuer. On s'est aperçu en fin de compte que c'était pas plus accidentogène et qu'il y avait pas plus de crimes et de délits en fait dans les zones moins éclairées. Et c'est un moyen de faire revenir la biodiversité nocturne.
Justement, quand on s'intéresse à la biodiversité, à ce monde-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre parcours personnel ? En tout cas, est-ce que c'est impossible d'être muséologue et s'intéresser à ces questions si on devient un peu militant justement ?
Si, effectivement, parce que alors c'est vrai que moi ça m'intéressait a priori, enfin la nature m'intéresse, mais que comme animal diurne, je connais mieux la nature diurne, et de l'observer, c'est vrai que c'est fantastique, mais il y a des choses qu'on peut observer. Moi j'habite à Paris, a priori les animaux nocturnes dans la ville, il n'y en a pas tant que ça, et en fin de compte je me suis aperçue que si, il y a des petites chauves-souris, les pipistrelles, qui pèsent que quelques grammes, et ben, qu'on peut voir autour des lampadaires, elles chassent les insectes. Ça, c'est une biodiversité qu'on ne connaît pas très bien, le monde des chauves-souris. L'idée, c'était de montrer en fait comment elles vivent, c'est quoi le sonar des chauves-souris. C'est ce qu'on montre dans l'exposition. On peut même jouer, il y a plein de dispositifs pour découvrir l'essence de ces animaux. Et puis il y a d'autres animaux qu'on peut rencontrer assez facilement. Le cerf par exemple, le brame du cerf, c'est une expérience incroyable quand on va dans la forêt au mois de septembre, entendre ces mâles qui brament et qu'on entend à plusieurs kilomètres, pour appeler les femelles et puis pour dire aux autres mâles, c'est bon, c'est mon territoire, merci d'aller voir ailleurs.
Cette expo a été construite depuis 3 ans maintenant par le Muséum d'Histoire Naturelle, elle a déjà pas mal tourné. Et est-ce que d'abord, aux origines, vous vous rappelez de comment l'initiative est venue, comment cette idée est venue de se dire de le montage de cette expo nuit au départ ?
Alors, au muséum, l'objectif, c'est effectivement de parler de la nature. Et en fait, on cherchait un sujet qui permette de montrer le plus d'espèces animales possible. Parce qu'on peut faire des monographies. On a fait d'ailleurs, qui sont venus à Rennes, par exemple, on a fait le mammouth. Donc, on parle d'une espèce. On a parlé des cétacés, donc des baleines et des dauphins. On parle de quelques espèces. Et là, l'idée, c'était de montrer plein d'autres espèces. Et puis, peut-être parce que je travaille tard le soir, j'ai pensé à la vie nocturne, parce que voilà, il y a quelque chose aussi d'un peu magique et poétique aussi dans la nuit, et de partir à la découverte de toutes ces espèces. Alors, on parlait des chauves-souris, ce sont des mammifères, mais il y a aussi les grenouilles, les amphibiens, il y a des serpents, il y a des insectes, les papillons par exemple, il y a plus de 90% des papillons qui sont en fait nocturnes et non pas diurnes. Donc voilà, donc c'était de montrer en fait dans toutes les classes d'animaux en fait on a et on a même des plantes nocturnes, les belles de nuit par exemple sont des fleurs qui vont s'ouvrir à la tombée de la nuit, alors que à l'inverse leurs copines, les belles de jour, elles vont se fermer pendant la nuit. Donc voilà, l'idée c'était de montrer toute cette biodiversité insoupçonnée pour nous.
Pour cette belle collection, il fallait un bel écrin aussi et une scénographie qui allait un petit peu avec tout cet univers. Qu'est-ce que vous en pensez de comment cette expo arrive dans cet espace des sciences, plus petit forcément, plus contraint que Muséum d'Histoire Naturelle ?
Eh ben, elle est encore très muséum et je trouve que c'est une très belle scénographie. On retrouve toute l'ambiance de l'exposition à l'espace des sciences, donc ça fait plaisir. Et puis visiblement même les gens là pendant l'installation ont retrouvé ce côté poétique. On navigue toujours entre ces arbres avec ces animaux naturalisés, il y a des vidéos partout, on retrouve vraiment cette magie un peu sombre de la nuit, on entend tous ces sons, cette ambiance sonore, et voilà, je trouve que c'est une très belle itinérance, une mise en valeur de cette exposition.
Que se passe-t-il quand vient la nuit ? Une question à résoudre à l'Espace des Sciences jusqu'au 2 septembre.
Nouvelle exposition, donc nouvelles animations à l'Espace des Sciences. Est-ce qu'il faut, pour réussir à être inventif et y mettre du cœur, avoir aussi une appétence particulière pour le sujet qu'elle anime cette fois ?
Oui, du coup, je pense que tout le monde est fasciné un petit peu par le monde de la nuit, parce que généralement on dort et on voit très peu, on connaît très peu en fait les espèces, les sons, tout ce qui vit finalement la nuit. Et du coup, de le mettre en lumière justement, ça permet de... Je pense que ça intéresse pas mal de monde, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on connaît peu. Et en tout cas en me renseignant sur l'animation, j'étais de plus en plus fasciné justement par ce que je découvrais et l'envie aussi de faire découvrir aux visiteurs qui viendront à l'Espace des Sciences.
Alors les visiteurs, c'est de tous âges possible pour ces animations-là. Est-ce que tu as justement une adaptation de certains discours ou certains trucs qu'il faut absolument pas que tu fasses avec les plus petits ou avec les plus âgés ?
En fait, on s'interdit jamais d'utiliser des mots compliqués tant qu'on les explique. Effectivement, c'est quelque chose qu'on met l'honneur à faire, parce que c'est toujours difficile de vulgariser sans mentir, entre guillemets, en fait, sans dire de bêtises. Donc effectivement, on s'interdit pas de dire des mots un petit peu qui peuvent paraître complexes, mais même avec des petits, des 6-7 ans, en fait, on peut le dire, mais on prend du temps par contre pour les expliquer. Effectivement, on ne donne pas autant d'informations à des petits qu'à des grands en animation, mais on ne s'interdit pas de certains mots ou autres, certains concepts qui peuvent paraître complexes, et pas de soucis.
Et par rapport en fait de la nuit, justement comme ça, les petits aussi peuvent craindre cette nuit-là. Toi, tu as prévu un peu de vouloir les rassurer en leur expliquant ?
Oui, voilà, il y a plein de choses qu'on entend sur les chauves-souris, sur les chouettes, sur plein de choses comme ça. Et du coup, effectivement, je pense que de connaître permet aussi de dédramatiser la chose. Ouais. Que les chauves-souris, ça ne s'accroche pas dans les cheveux, elles ne sont pas toutes vampires, enfin voilà, des choses comme ça. Et que, justement, ce n'est pas parce qu'il fait noir que c'est inconnu, en fait. On connaît ce qui se passe la nuit, et je pense que ça peut aussi rassurer les plus petits. Ouais.
Après les prouesses technologiques du train, donc revenir à du vivant, c'est intéressant aussi.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui plaît aussi beaucoup au public. C'est-à-dire que dès qu'on a des espèces vivantes ou même naturalisées ici, on voit qu'il y a plein de visiteurs qui viennent aussi pour ça. Et que c'est sans doute peut-être plus facile quand on vient avec des petits en famille de venir du coup ici. Enfin voilà, il n'y a qu'à observer déjà, même sans avoir énormément d'explications, rien que de venir dans la salle et voir toutes les espèces qui sont présentes. Il y a déjà de quoi faire.
Donc toi, en animation, tu as plein d'anecdotes. Je ne vais pas t'en voler non plus, c'est pas gâcher toutes les animations après. Mais est-ce qu'il y a un fait, par exemple, sur la nuit que toi, tu ne connaissais pas et qui t'a paru particulièrement intéressant, que tu t'es dit, tiens, je me le garde celui-là dans la tête ?
Le chat, moi, ça m'a étonné que du coup qu'on puisse en fait repérer les cycles du sommeil avec la position dans laquelle est le chat au moment du sommeil. Effectivement, de le voir un petit peu assis sur ses pattes, fermer les yeux, on peut aujourd'hui être quasiment sûr qu'il est en sommeil lent, et quand il est du coup affalé les quatre fers en l'air, en gros, c'est qu'il est en sommeil paradoxal. Et que, du coup, c'est là qu'il a le plus de chances de rêver. Et donc on le voit d'ailleurs avec ses moustaches, ses vibrisses qui bougent un petit peu, les yeux qui peuvent aller assez rapidement, etc. Et c'est vrai que ça m'a fasciné. Et le fait aussi des nouvelles recherches sur le fait d'essayer de casser un peu le mystère des rêves, en fait, de savoir à quoi rêvent les gens. Et ça, du coup, il y a des équipes de chercheurs dans le monde qui essayent de décrypter les rêves. Donc ils arrivent en fait avec les afflux sanguins qui arrivent dans différentes parties du cerveau à savoir si, par exemple, la personne rêvait d'un homme ou d'une femme, d'une voiture ou des choses comme ça assez simples. Mais en tout cas, ils arrivent à être à 80-90% sûrs de à quoi les personnes testées rêvaient.
La nuit, c'est plein de choses effectivement qu'on ignore, qu'on a envie de découvrir. Les animaux, est-ce qu'ils rêvent ? Justement, c'est une réponse à laquelle tu vas essayer de répondre.
Alors, moi, je ne vais pas essayer d'y répondre, mais en tout cas, c'est vrai que les études prouvent qu'on n'est pas les seuls à rêver. Et en fait, les animaux sont très peu testés aujourd'hui au niveau du sommeil. En fait, c'est quelque chose qui est très récent finalement. Même pour l'homme, en fait, de savoir que le cerveau n'est pas éteint pendant la nuit, ça c'est finalement relativement récent. Et sur les animaux, donc sur les amphibiens, les poissons par exemple, les études qui datent d'il y a quelques dizaines d'années n'ont pas permis d'être sûr à 100% qu'ils rêvaient ou non. Et depuis, il n'y a pas eu énormément d'autres études là-dessus. Donc peut-être que dans un futur proche, il y en aura, mais en tout cas, voilà. En tout cas, chez le chat Il y a une quarantaine d'années, Michel Jouvet, du coup, celui, la personne, le Français qui a découvert le sommeil paradoxal, a mis des électrodes sur le cerveau d'un chat. Et en fait, il a inhibé la partie du cerveau qui nous paralyse pendant le sommeil paradoxal. Ce qui fait que le chat, en fait, faisait en mouvement ce qu'il était en train de rêver au moment où il le faisait. Et en fait, il a découvert que eh bien, les rêves de chat, c'était qu'il se nettoyait, qu'il chassait, qu'il mangeait, enfin voilà, des choses très basiques. Mais on a pu observer un chat rêver et le faire en mouvement. Du coup, révéler un petit peu cette phase de rêve. Mais depuis, c'est pareil, il n'y a pas eu énormément d'études dessus. Donc le but pendant chaque exposition, c'est qu'on garde vraiment un œil sur les études scientifiques et une veille constante pour justement actualiser les animations en fonction de ce qui est découvert à ce moment-là.
Il y a du boulot à l'espace des sciences, je n'en doutais pas. Et parmi les gens qui viennent, de la fascination, mais aussi toujours à chaque nouveau thème, des questionnements qui sont parfois imprévisibles pour quelqu'un comme toi. Est-ce que tu te projettes justement pour dire bon, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir me sortir comme question tirée par les cheveux encore?
Oui, un petit peu. Alors on essaie, puisqu'on ne sait pas évidemment toutes les questions qui vont sortir, mais on aime bien en fait déjà, avant de se plonger dans un sujet, se mettre les questions que nous on se pose. Souvent, on se pose souvent finalement les mêmes questions. Sur les phases de sommeil, sur le somnambulisme, sur les cauchemars, les rêves, etc. Et du coup, ces questions-là, en fait, eh bien, on les laisse dans un coin de la tête et on essaye d'y répondre pendant qu'on prépare l'animation. Et après, il y a toujours des questions qu'on ne s'attendait pas. Justement, c'est ça qui fait que ce métier-là est intéressant d'être face publique, c'est qu'on est souvent étonné et ça pousse aussi à continuer nos recherches vers d'autres axes qu'on n'aurait pas forcément pensé. Jamais on sait tout. Justement, les animations sont aussi le lieu d'échange avec le public. Et le but, c'est pas de dire nous, on sait, on va vous dire ce qu'on sait. C'est vraiment essayer d'échanger, parce que voilà, il y a des publics il y a des personnes qui en savent énormément plus que nous sur certains sujets. Donc voilà, c'est aussi dans l'échange que ça se passe.
Nuit, à découvrir à l'Espace des Sciences jusqu'au 2 septembre.
Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, l'exposition est découpée en trois parties. Donc là, nous sommes dans la première partie qui est plutôt dédiée au sommeil des animaux. Donc justement, derrière vous, vous avez des animaux en sommeil, donc comme le flamant rose qui a la particularité pour maintenir sa chaleur de dormir sur une patte. Et ça lui permet aussi de pouvoir partir plus vite en cas d'attaque de prédateurs. Vous avez également le canard qui va dormir en tournant en rond, parce qu'il va ne dormir que d'une partie de son cerveau, en fait. Il n'y a que la moitié du cerveau qui est en sommeil, l'autre moitié reste en éveil. Et il a l'œil opposé qui reste ouvert pour justement surveiller les attaques potentielles des prédateurs. Et donc, il a une patte qui bouge. Et c'est pour ça qu'il va tourner en rond. Donc voilà, chaque animal a une posture ou une façon d'être en sommeil particulière. Et alors, les études sur le sommeil des animaux sont encore assez jeunes et assez récentes, parce qu'on n'a pas énormément de retours. Parce que pour avoir des études sur le sommeil, il faut mettre des électrodes. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, sur les animaux en zoo, ça arrive un peu plus.
Mais c'est vrai que pour les animaux en milieu naturel, donc c'est encore différent. Donc là, vous avez une vidéo de la loutre, justement, dont vous parlez, William, tout à l'heure, qui s'enroule dans les algues. Et où parfois, on les a qui se tiennent par la main pour éviter de dériver. Donc voilà, vous avez plusieurs, vous en avez à plusieurs endroits, donc vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure des animaux qui sont plus ou moins cachés. Et voilà, pour la première partie, vous avez aussi une vitrine sur le côté qui montre l'évolution du sommeil justement chez les animaux avec un arbre phylogénétique qui explique justement l'évolution du sommeil au cours du temps et au cours de l'évolution. La deuxième partie, donc là où vous êtes derrière vous, vous avez donc les deux, ce qu'on appelle les deux bosquets. Donc c'est pareil, vous allez avoir des espèces naturalisées, des espèces qui sont en moulage, puisque il y a pas mal d'espèces qu'on ne peut pas naturaliser puisque elles sont protégées. Donc celles qui sont naturalisées sont des espèces qui sont parfois protégées, mais en tout cas, ce sont des animaux qui sont morts de mort naturelle. Et nous n'avons pas tué spécifiquement des animaux pour l'exposition, je vous rassure. Donc voilà, c'est. Mais c'est assez intéressant parce qu'ils sont en posture aussi de chasse. Donc justement dans la posture dans laquelle ils sont, puisque ce sont les animaux nocturnes que vous allez pouvoir découvrir dans ces deux bosquets. Alors pour les arachnophobes, il y a une partie que vous pouvez éviter sur le côté gauche. Personnellement, je n'y mets pas trop les pieds. Mais voilà, sur le reste, vous avez des amphibiens, vous avez des mammifères, des oiseaux. Et c'est assez intéressant justement de découvrir la diversité d'animaux qu'il peut y avoir dans la vie nocturne. La partie justement, qui est ce que nous on appelle le labyrinthe, c'est de ce dont parlait Sophie tout à l'heure, c'est les sens. Donc c'est tous les sens qui ont été développés, ou en tout cas que les animaux ont dorénavant pour chasser, pour se protéger, pour retrouver un partenaire dans la nuit. Donc on connaît tous les lucioles qui clignotent. Voilà, bah vous avez un multimédia qui vous montre justement comment retrouver son partenaire en fonction du clignotement, puisqu'elles ne clignotent pas toutes de la même façon. Et c'est encore une stratégie justement qui... alors on se dit, il ne faut pas être trop vu dans la nuit, mais il faut quand même essayer de se retrouver. Donc il y a plusieurs techniques. Vous pouvez aussi vous prendre pour un chat, étant donné que vous avez un dispositif qui montre notre vision nocturne, c'est-à-dire pas très très efficace dans la nuit. On distingue quelques formes, mais on ne voit pas dans le noir, alors que les chats... ont cette particularité, entre autres, d'avoir... Il y a deux types de cellules dans l'œil, ce qu'on appelle des cônes et des bâtonnets. Et ils ont plus de bâtonnets que nous, qui permet de voir en nuances de gris. Et ils voient moins bien en couleur, mais par contre, dans le noir, ils peuvent mieux voir. Et ils ont une pupille qui, si vous avez déjà observé un chat, qui peut être en fente lorsque la lumière apparaît en trop grande quantité. Mais lorsque c'est la nuit, ils ont la pupille qui est bien dilatée, et bien ronde. Donc on voit que là, ils peuvent bien chasser au moment de la nuit. Donc voilà, vous avez ces dispositifs-là. Vous avez aussi un dispositif où là, bah, vous pouvez vous prendre pour un papillon de nuit. William vous a expliqué que les antennes étaient très développées en forme de peigne. Mais il y a des odeurs particulières et il y a un papillon en particulier dont l'odeur ressemble un petit peu à la vanille. Donc bah, vous pouvez sentir aussi cette odeur-là et peut-être trouver votre partenaire au niveau comme les papillons de nuit avec la vanille. Donc l'intérêt de cette exposition, c'est de pouvoir faire... c'est très contemplatif et c'est très complet au niveau des informations. Et la dernière partie, c'est vraiment une sensibilisation à la pollution nocturne, à la fois en ville, parce que nous-mêmes, nous éclairons énormément, nos lampadaires éclairent dans toutes les directions. Donc maintenant, on passe à des éclairages un petit peu plus doux, mais qui sont quand même une pollution lumineuse, puisque nous ne sommes même pas capables de voir les étoiles en ville, donc c'est qu'on pollue quand même énormément. mais on pollue aussi dans notre chambre. Donc c'est aussi une sensibilisation pour comment bien dormir nous aussi, puisque nous avons de plus en plus d'écrans. Nous chauffons trop nos chambres à coucher, voilà. Donc ce sont des gestes aussi pour sensibiliser les enfants, mais aussi les grands à ces nouvelles habitudes qu'il faudrait que nous prenions, et en même temps pouvoir préserver un peu la biodiversité, puisque c'est aussi le message à la fin, c'est la pollution lumineuse, oui, mais voilà, pourquoi il faut la limiter pour préserver la biodiversité. Parce qu'on perturbe énormément ces espèces nocturnes avec nos éclairages qui sont en très grande quantité.